Alors, tout à l'heure, je vous ai fait la liste que vous avez dans le carnet, hein, des 10 caractéristiques qui sont basées sur ce mot téléos, qui veut dire personne à qui ne manque rien, inscrite dans le plan de Dieu et dans le chemin de Dieu prévu pour elle. Donc, je reviens maintenant sur les caractéristiques, mais je ne vais pas toutes les développer parce que ça demande beaucoup de temps, mais je vous donne quelques éléments pour chacune. J'essaie de ne pas reprendre ce qu'il y a dans le livre, mais si vous avez besoin de compléter, vous pouvez toujours vous reporter au livre. Bon, d'abord, le chrétien, dans la première caractéristique, le chrétien mature, c'est quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence et avec sa volonté ou sa pensée. Il y a quatre mots, hein, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Alors, c'est vraiment le plus grand commandement. S'il n'y a qu'une caractéristique à retenir, ce serait celle-là. Aimer Dieu avec la force de son âme. Quand la Bible dit aimer Dieu de toute sa force, de toute sa pensée, son intelligence, etc., ça veut dire que tout mon être est porté vers Dieu. Tout ce qu'il y a en moi, toutes mes facultés émotionnelles, spirituelles, se porte vers l'amour de Dieu. Je vous avais dit ça tout à l'heure, hein. Aimer Dieu, c'est faire de Christ la perle de grand prix. Vous savez que le Seigneur lui-même donne cette parabole, la perle de grand prix. C'est l'homme qui trouve le trésor et il est prêt à tout vendre. C'est ce que Jésus a dit au jeune homme riche, n'est-ce pas? Tu veux être mature, parfait? Ben, vends tout. Pourquoi? Pas pour tout perdre, mais pour recevoir ce qui n'a pas de prix. Le royaume de Dieu est le roi du royaume, le Seigneur Jésus lui-même. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, le signe de notre maturité, c'est la recherche de la communion avec le Seigneur Jésus. Je vais vous raconter une histoire, mais vraiment triste. Bon, il faudrait peut-être pas l'enregistrer parce que ça concerne quelqu'un que je connais. Et donc, en discutant, chrétien depuis des années, elle me dit, moi, quand je lis la Bible, quand ça parle de Jésus, je saute les passages. Et pourtant, j'en ai déjà entendu, hein. C'était vraiment renversant. Comment est-ce possible qu'un chrétien, en lisant, dès qu'un verset parle de Jésus, ça lui pose problème? Ben, en tout cas, la personne n'a rien compris. En tout cas, il y a un problème. Le chrétien mature, il a un amour pour le Christ qui va au-delà de tout, parce que aimer Dieu, c'est aimer le Seigneur Jésus. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer Jésus. Jésus est le chemin qui nous mène au cœur du Père. Et un chrétien qui prétend aimer Dieu sans passer par Jésus, est-ce qu'il est chrétien? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est mon amour pour le Christ et l'expression de mon amour pour le Dieu éternel. Et mon amour s'exprime par mon désir de gagner Christ coûte que coûte. C'est ce que Paul a dit, n'est-ce pas? Pour moi, Christ est ma vie. Et il a dit aussi, je suis prêt à tout abandonner, je renonce à tous mes privilèges, tout ce que je considère comme une richesse, je l'abandonne pour la connaissance de Christ. Alors, aimer passe par la connaissance. Ça, c'est quelque chose avec lequel on a du mal. Ça, il y a l'amour émotionnel. Aimer Dieu avec ses émotions, c'est très important. Si on ne le vibre pas, si on n'est pas ému quand on pense à notre Seigneur, c'est dommage. Mais l'amour ne se réduit pas aux émotions. C'est ça le plus important. Il ne faut pas rejeter les émotions, mais il ne faut pas réduire l'amour aux émotions. Et pourquoi je parle de la connaissance? C'est parce que la Bible nous dit, aime le Seigneur Dieu, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais vous savez que ce mot-là ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus cite l'Ancien Testament et il ajoute de toute ta pensée. Autrement dit, le chrétien mature met son intelligence au service de l'amour pour Dieu. quand mon intelligence est nourrie par ce qu'il faut, quand mon intelligence ou ma pensée, c'est-à-dire ce que je connais, se développe, ça va me conduire à aimer Dieu mieux. Plus je connais, mieux j'aime. Vous êtes d'accord avec ça ou non? Plus je connais, mieux j'aime. Je vous donne une illustration pour ça. Une fois, j'étais invité par un chrétien un après-midi, et donc il habite à 100 km, il m'a dit « Ah, tu dois venir ». Et ce jour-là, ils avaient une réunion avec ses collègues, et c'était un après-midi de dégustation de vin. Et donc, ben moi j'étais avec eux, je les entendais qui s'extasiaient en parlant de vin. On avait l'impression qu'ils parlaient de la femme la plus extraordinaire, la robe, le parfum. Waouh ! Et vous savez que pour moi, c'était du chinois. Hein ? On me parlerait du coca, je comprendrais. Je fais de la provocation. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ne connaissant rien au vin, j'avais du mal à prendre plaisir à ce qu'ils étaient en train de dire. Mais eux, pourquoi ils avaient ce plaisir-là ? C'est parce qu'ils avaient la connaissance. La connaissance nourrit le plaisir, qui donne la joie d'être avec eux. Donc, plus je nourris mon intelligence, plus le plaisir va grandir d'être dans la communion avec Dieu et d'être dans l'amour de Dieu. C'est pour ça que c'est très important pour nous de donner à manger à notre intelligence. Mais malheureusement, vous savez que il y a tant de nourriture mortelle, hein, qui sont à droite et à gauche. Et elles sont gratuites d'ailleurs. Mais les nourritures spirituelles et valables, il faut payer le prix fort pour ça. Hein. Il faut prendre le temps de nourrir notre intelligence pour aimer Dieu encore plus. Oui. Alors bien sûr, je développe pas, hein, mais aimer Dieu avec son intelligence, c'est trouver Dieu dans sa parole. Et c'est dans la lecture, dans la méditation de la parole que nous allons acquérir plus de connaissances et d'intelligence. Donc la connaissance nourrit l'amour et stabilise la vie spirituelle. La connaissance de Dieu fait grandir le plaisir de Dieu. Plus je le connais, plus je l'aime, comme je l'ai dit. Connaître Dieu, c'est aimer Dieu, c'est vivre pour Dieu, et c'est dans la parole que cette réalité se révèle. Bon, je passe rapidement, hein. Donc, deuxième point, le chrétien mature aime les autres, quels qu'ils soient. Donc, je devrais dire, le chrétien mature aime tous les autres. Là, ça commence à devenir problématique. Parce que le chrétien aime les autres, mais pas tous les autres. Dans l'église, il y en a qui nous tapent sur les nerfs. Hein. Mais la Bible nous dit de les supporter, de les aimer. Et attention, hein, aimer, c'est aussi la connaissance. Des fois, on a des préjugés à l'égard des autres. On les étiquette sans les connaître. Mais si on prend le temps de les connaître, on découvrirait peut-être leur détresse, leurs angoisses, leurs questions, leurs interrogations, et ça nous rendrait un petit peu plus sensibles. Et on pourrait aussi les connaître en tant que personne et voir que nous sommes totalement à côté de la plaque. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une pensée à l'égard de quelqu'un et vous vous rendez compte que vous étiez mais à côté de la plaque? Ça m'est déjà arrivé. Hein. Ah, celui-là, il est comme ça. Et quand on discute, non. Ou alors, le pire dans les chrétiens, c'est d'attribuer des intentions aux autres. Il fait ça parce que ça, mais on n'en sait strictement rien. Mais vraiment rien. Et on n'a pas le droit d'attribuer des intentions aux autres, les raisons de leurs actions. Seul Dieu les connaît. On ne connaît pas le cœur des autres. Et c'est ce qui souvent bloque notre amour à l'égard des autres. Nos jugements prématurés et prêter des choses à l'autre qu'il ne pense pas nécessairement. Bon, vous savez que le Seigneur Jésus parle de l'amour des autres comme la caractéristique du disciple. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, on peut dire, mais qui est capable d'aimer de cette façon-là? Bien sûr, le Seigneur Jésus a aimé. Et vous savez que Jésus nous demande d'aimer, non pas de manière coupée de tout, mais il nous demande d'aimer comme lui a aimé. Autrement dit, Quand je veux aimer les autres, j'ai besoin moi-même de connaître l'amour de Christ pour moi. En fait, plus je reçois l'amour de Dieu pour moi, plus mon cœur est rempli de choses belles à donner aux autres. Et le chrétien mature, c'est le chrétien qui est un élément de cascade. Vous voyez, des fois, on achète dans le marché de petits vases qui sont les uns en bas des autres et il y a l'eau qui se déverse d'un réceptacle à un autre. En fait, c'est vraiment ça l'amour. Parce que quand je prends conscience de la grandeur de l'amour de Jésus pour moi, mon cœur s'élargit. Il y a plus d'espace de l'amour pour l'amour de Dieu pour moi, et cet amour finit par déborder de moi, pour s'écouler vers les autres. Et c'est vraiment ce que Jésus nous dit. Il ne nous dit pas simplement aimer les autres, mais aimer les autres de l'amour dont moi je vous ai aimé. C'est pas comme je vous ai aimé, c'est de l'amour dont je vous ai aimé. Cet amour que j'ai pour vous, laissez-le se déverser à travers vous pour atteindre les autres. Donc, vous avez beaucoup de passages dans le Nouveau Testament. Je pense que je n'ai pas besoin de vous les rappeler, hein, vous les connaissez. Romains 12 et 13, Jean 13, 15, bien sûr. Et ce sont des passages fondamentaux, hein, à connaître et à chercher à vivre. Donc, aimer de l'amour de Christ, c'est aimer dans le pardon, aimer dans le service, aimer en cherchant à restaurer les relations. Parfois, il peut y avoir des relations brisées. Même quand si on se considère comme un chrétien mature, parfois, nos relations peuvent connaître malheureusement des dégâts avec les autres. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque les relations sont brisées? Ben, si nous sommes des chrétiens qui aimons, on va chercher à restaurer ces relations ou tout au moins à ne pas être dans le rejet et dans le blacklistage ou dans la culture, cancel culture, là, je ne sais pas. Vous connaissez ça, vous savez, hein. Quand on n'aime pas quelqu'un, on fait tout pour qu'il soit radié de tout. C'est ce qui arrive aujourd'hui. On parle de la cancel culture. Ça vous dit quelque chose, ça? Ah, c'est la culture de l'effacement. Quand quelqu'un, par exemple, dans les médias déclare qu'il est anti quelque chose, vous avez tous les autres qui lui tombent dessus pour l'éliminer, pour l'effacer totalement. Et donc, il y a des gens qui ont énormément souffert, hein. Par exemple, des stars qui ont pris position pour, pour l'homosexualité. Ah bah alors là, c'est quelqu'un a le malheur de dire « mais moi je ne suis pas pour », là il est effacé. Donc le chrétien mature aime les autres, tous les autres, et le chrétien mature a des habitudes spirituelles. Donc je parle bien d'habitudes spirituelles. Est-ce que vous savez que notre vie est faite à 60% d'automatisme? Ce matin, vous êtes venu ici, vous vous rappelez comment vous êtes venu? On monte dans la voiture, elle connaît la route, on ne pense à rien et on se retrouve dans la salle. On fait la même chose pour le travail, on fait la même chose pour l'église. Quand on se lève, le café est déjà prêt, je ne sais même pas comment je l'ai préparé. Parce qu'on est fait d'automatismes. Mais malheureusement, souvent les automatismes que nous avons sont des automatismes néfastes. Je rentre le soir, je suis fatigué et je me jette sur le paquet de chocolat pour me consoler. Ou alors sur la bouteille de whisky.
C'est la
colère. Non mais, attendez, hein. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ça. Je suis en train de dire que il y a des automatismes néfastes. Si pour me consoler, je mange du chocolat et ça devient un automatisme, ou je me jette sur le verre de whisky, ça c'est néfaste. Mais si je prends un verre qui n'est pas une habitude, c'est autre chose. Là, je parle des automatismes qui sont des habitudes, et vous savez que nous avons beaucoup de mauvaises habitudes en réalité. Combien de temps faut-il pour acquérir une mauvaise habitude? Très peu de temps, n'est-ce pas? Combien de temps faut-il pour acquérir une bonne habitude? Ça, c'est compliqué, n'est-ce pas? Eh bien, je ne peux pas être un chrétien mature si je n'ai pas de bonnes habitudes, mais des habitudes spirituelles. Alors, ces habitudes spirituelles, on peut en énumérer 20, 30, 40. Moi, je vous en propose quelques-unes seulement. D'accord? Donc, le chrétien mature lit la parole, mais avec profit. Le chrétien mature prie dans une attitude de dépendance. Le chrétien mature s'examine. Le chrétien mature confesse ses péchés. Le chrétien mature, ça c'est un peu plus difficile, mémorise les Écritures. Et le chrétien mature participe au culte communautaire. Donc, je vous l'ai redit, hein. Lire la parole avec profit, prier dans un esprit de dépendance, s'examiner soi-même, confesser ses péchés et participer au culte. Prenons l'exemple du culte. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Ben, c'est parce que le Seigneur Jésus avait l'habitude de quoi? De se rendre le sabbat comme à son habitude dès l'Écriture à la synagogue. S'il y en avait un qui n'avait pas besoin d'aller au culte, c'était lui, n'est-ce pas? Et il y allait comme à son habitude, nous le dit la parole à plusieurs reprises. D'accord? Donc, lecture, prière, examen, confession, mémorisation. Mais je les donne pas comme ça, donc, parce que ça, on peut le faire sans être mature. Mais lire la Bible pour lire la Bible, ça sert à rien. Oh là là, vous allez entendre ça, hein. Lire, mais je le répète, hein, lire la Bible pour lire la Bible, ça sert à rien. Mais lire la Bible pour en tirer profit, pour se nourrir, ça sert à tout. La prière, c'est la prière dans le but d'exprimer et ma dépendance à l'égard de Dieu et ma communion avec Dieu. La prière ne se réduit pas à l'intercession. La prière englobe l'intercession, bien sûr, mais la louange, l'adoration, la confession des péchés, et ainsi de suite. L'examen de soi. Ben, vous savez que de temps en temps, on a besoin de faire le point sur sa vie. Mais où j'en suis dans ma marche avec Dieu? Quand vous arrivez dans une ville, aujourd'hui on a le GPS, hein, mais vous savez que pour se repérer, on a besoin d'un quoi? D'un plan, et surtout, je vous donne le plan, est-ce que ça vous aide? Non, vous avez besoin de quoi? Le nord et le sud, et encore? Voilà, vas-y. Exactement. Si vous ne savez pas où vous êtes, vous ne pouvez pas vous repérer. Si je veux aller vers le chemin de la maturité, j'ai besoin de savoir où je me trouve. Et ça me donne orientation et direction. Et c'est vraiment ça qui est important dans l'examen de soi. Vous connaissez tous le psaume 139, à la fin. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu. » Ben, on a besoin que Dieu nous sonde. Quand on dit « s'examiner », c'est pas faire un truc morbide en disant « ah, je suis minable ». Non, c'est demander à Dieu de nous aider à comprendre où nous nous trouvons pour continuer si nous sommes sur le bon chemin ou alors abandonner les choses si elles sont néfastes pour nous. C'est ça le but de l'examen de soi, comme le psaume le dit, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oui?
Au sujet de méditer, mémoriser l'Écriture.
Oui.
La mise en pratique de la parole de Dieu.
Bah, bien sûr. Oui. Alors, on va y venir. Mais juste la mémorisation, pourquoi je pense à ça? Mémoriser, c'est pas tant, ce serait bien de connaître par cœur, mais c'est être imprégné et saturé de la parole. Je me rappelle une fois, quelqu'un me disait, il parlait avec une femme, mais d'un certain âge, une dame toute simple, et quelqu'un lui racontait une histoire, et donc elle réfléchit, elle dit, « Oh, mais c'est pas biblique, ça !» Et en fait, elle avait la sagesse de mesurer ce qu'elle entendait à la lumière de ce qu'elle connaissait de la parole. Elle était peut-être incapable de citer le verset, mais son intelligence était saturée, ou on va dire, elle baignait dans une atmosphère biblique qui lui donnait la capacité de discerner. Et c'est ce que j'entends par là. Et si on peut apprendre, c'est encore mieux. Parce que apprendre la parole, c'est être prêt le jour de l'épreuve à utiliser la parole comme notre épée. Vous savez que le Seigneur Jésus, puisque nous disons que nous voulons être comme lui, et la cité de mémoire, tant de passages des Écritures, n'est-ce pas? Il n'a pas dit à Satan, excuse-moi, je cherche mon application iPhone. Ah, quel est le verset qui parle de la tentation? Ah ben non. Voilà, il avait ça dans le cœur. Et vous voyez que connaître la parole, c'est être prêt à répondre au moment voulu, de manière opportune. Le Seigneur a dit, il est écrit, et il a répondu aux tentations parce qu'il connaissait la parole et cela lui était utile au moment même de l'épreuve. Et parfois, nous allons apprendre des passages, on ne sait pas à quoi ça va nous servir. Mais un jour, cela deviendra une épée entre nos mains pour dire non à la tentation. Pourquoi j'apprends la Bible par cœur? Ce n'est pas comme une poésie, quand j'étais jeune à l'école, non. Je sais que ça va me servir, je le fais avec une intention. Vous vous rappelez, le chrétien mature fait tout avec intention. Je le fais parce que je sais que Dieu fera rejaillir de mon cœur cette vérité le moment venu. Alors, quatrième qualité, le chrétien mature vit de la parole et il la lit avec profit. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est afin de l'assimiler comme une nourriture. Vous voyez, on mastique. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a mastiqué? On avale. Il y a beaucoup de chrétiens qui mâchent sans jamais rien avaler. Mais ça ne nous nourrit pas. Non, mais c'est vrai. Hein. Mastiquer sans avaler, c'est tourner la parole dans sa tête sans la laisser descendre dans le cœur afin qu'elle se transforme en acte de vie. La parole doit devenir un acte de vie. Elle s'assimile à notre organisme spirituel, et elle devient un nutriment. C'est-à-dire quand on mange de la nourriture, elle est transformée par le corps pour devenir nutriment et nous donner la force. Ben, la parole de Dieu, c'est comme ça. Et quand on parle de méditer, c'est cela. Méditer, c'est prendre le temps de réfléchir à ce que Dieu nous dit, et réfléchir, c'est mâcher. Mais il faut avaler à un moment donné. Et vous savez que quand on aime la nourriture, on avale avec plaisir. Hein. Et ça descend et ça fait du bien. Et après, ça reste, oui. Donc, je passe pour aller vers la suite. Le chrétien mature vit de la prière. Et donc, c'est vraiment l'idée d'exprimer notre dépendance à l'égard de Dieu. Pourquoi est-ce que je prie? Ma prière, c'est une recherche de la face de Dieu pour dire à Dieu, mais je dépends de toi. Sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je n'ai pas d'existence. Je dépends totalement de toi, dans ce dont j'ai besoin, dans ce que je suis, et ainsi de suite. J'ai besoin de toi pour vivre, pour respirer, et pas simplement exprimer ma dépendance, mais exprimer aussi mon besoin de communion avec Dieu. À la rigueur, le chrétien mature, c'est celui qui ne demande plus rien, sinon Dieu lui-même. Seigneur, je n'ai pas besoin des choses qui viennent de toi, j'ai besoin de toi. Et vous voyez que si on a vraiment Dieu lui-même, ben on a tout avec lui, excusez-moi. On a vraiment tout. Parce que Dieu, quand il vient à nous avec toutes les bénédictions qu'il nous a promises. L'exemple de Jésus est magnifique. Ah, puisqu'on parle de chrétiens matures qui ressemblent au Seigneur, bah, vous savez que le Seigneur a prié pour exprimer sa dépendance à l'égard de Dieu et pour chercher sa communion. Vous vous rappelez quand il était harcelé par les gens? Par exemple, dans Marc, tout le premier chapitre nous montre une journée super chargée par le Seigneur. Le samedi matin, il est à la synagogue, il guérit un possédé. À midi, il y a la belle-mère de Pierre qui est malade, il la guérit. l'après-midi et le soir, vous avez toute la ville qui amène des malades. Mais le Seigneur, il a travaillé jusqu'à je ne sais quelle heure. Je ne sais pas si on imagine la force que cela sollicite dans ce travail spirituel. Et qu'est-ce que Jésus fait après? Très tôt le matin, il se lève pour se mettre à l'écart. Ce qui est incroyable, c'est que Jésus a passé beaucoup de temps à prier. La Bible nous dit qu'il a passé beaucoup de temps dans la solitude, mais vous savez ce que la Bible ne fait pas? Elle ne nous dit pas ce que Jésus a prié à ce moment-là. On aimerait bien être là pour entendre la prière de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il disait à Dieu? Mais la Bible ne veut pas qu'on sache. Certainement que c'est au-delà de ce que nous pourrions comprendre, hein, parce que c'était la communion du Père et du Fils dans un moment vraiment fort et particulier. Même si la Bible nous parle de certaines prières de Jésus, elle ne nous parle pas de ces moments-là. Mais c'est ce que nous faisons chacun de nous, n'est-ce pas? Il y a des moments de prière où on est avec Dieu et on ne voudrait pas que les autres entendent ce que nous disons à Dieu. C'est la complicité avec le Seigneur. Par exemple, voilà, oui. C'est des moments vraiment précieux dont nous avons besoin. Et c'est ça qui manifeste aussi notre maturité, notre désir d'être avec le Seigneur. Et à la rigueur, juste dire, mais je suis là juste pour être avec toi. Vous savez, les enfants, souvent, ils cherchent la présence de leurs parents. Ils ne veulent rien d'autre que leurs parents. Quand les parents sont dans le salon, les enfants jouent et des fois, ils font quoi? Ben, ils viennent dans le salon, hein, parce qu'ils ont envie d'être avec leurs parents. Ben, c'est notre responsabilité en tant que chrétien mature. En tout cas, c'est ce que Dieu veut semer dans notre vie. Alors, ensuite, je vous ai dit, hein, je passe rapidement, je vous laisse regarder dans le livre si vous avez besoin d'explications. Le chrétien mature marche selon l'Esprit. Ça, c'est vraiment un commandement très important. On va lire dans Galates chapitre 5, si vous voulez bien, s'il vous plaît. Bon, qui n'a pas l'Esprit de Dieu ici? Oh, ça me rassure. Est-ce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu quand je me suis converti? Absolument, n'est-ce pas? Est-ce que je peux naître de nouveau sans avoir l'Esprit de Dieu? Ben non, c'est l'Esprit de Dieu qui me fait venir à la vie nouvelle. C'est lui qui m'engendre. C'est la nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu. Donc, tous les chrétiens sont nés par l'Esprit. Donc, tous les chrétiens doivent grandir par l'Esprit, n'est-ce pas? Celui qui m'a fait naître, c'est celui qui œuvre en moi pour me faire grandir. Et il me fait grandir parce qu'il veut que je ressemble au Fils de Dieu. C'est la mission de l'Esprit de Dieu que de transformer notre caractère et notre vie afin que ce que nous sommes en tant que bébés se développe, que cette vie nouvelle qui a été plantée en nous grandissent et deviennent vraiment un arbre extraordinaire qui porte le fruit de la vie éternelle. C'est le travail de l'Esprit de Dieu pour chacun de nous. Aucun chrétien ne peut dire « mais moi je n'ai pas l'Esprit ». Alors, marcher selon l'Esprit, je vais vous donner une phrase que j'ai lue quelque part, je trouve vraiment magnifique. Marcher selon l'Esprit, ce n'est pas que nous ayons plus d'Esprit de Dieu, mais c'est que l'Esprit de Dieu est plus de nous. Je redis ça. Marcher selon l'Esprit, ce n'est pas avoir plus d'Esprit, mais c'est que l'Esprit est plus de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas avoir plus d'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est une personne. Soit elle vient entièrement en moi, soit elle ne vient pas. Si l'Esprit de Dieu habite pleinement en moi, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut que moi, je m'abandonne pleinement à lui. Donc, ce n'est pas tant de dire, « Oh, Esprit de Dieu, viens, sois plus fort » ou je ne sais pas quoi, c'est pas possible. Hein. C'est de dire, « Esprit de Dieu, aide-moi à m'abandonner plus moi-même à toi, à te laisser agir plus fortement dans ma vie. » Donc, je vous donne quelques éléments là. Hein, donc, le chrétien marche selon l'Esprit, c'est-à-dire qu'il marche parce qu'il est uni à l'Esprit, à Christ par l'Esprit. Le chrétien est conduit par l'Esprit. Le chrétien accomplit une action humaine en s'appuyant sur l'action divine. Voilà. Je vais m'arrêter là, on va expliquer ça. Mais pour l'instant, est-ce que quelqu'un veut nous lire, s'il vous plaît, Galates chapitre 5? Voilà, verset 16, et on va lire jusqu'au verset 26.
Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point au royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la parole, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Nous ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres.
Voilà, merci. Donc ça, c'est un autre passage qui est vraiment très important pour la maturité chrétienne. Et je voudrais attirer votre attention juste sur deux choses ici. C'est ce que, en théologie, on appelle l'indicatif et l'impératif. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, l'impératif, c'est les commandements, n'est-ce pas? Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu feras ça. Il y a beaucoup de commandements qui sont des impératifs ou des ordres. Mais si on ne reste que sur l'impératif, ça c'est la religion. Moi quand j'étais musulman, c'est ce que ma religion me disait. Tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Point. Quelle est la différence entre l'évangile, la Bible et toutes les autres religions? C'est que toutes les autres religions vous donne l'impératif « fait ». On peut dire « F-A-I-S ». Mais l'Évangile, avant de te dire « fait », « F-A-I-S », il dit « fait ». F-A-I-T, bravo. Ça veut dire que c'est déjà fait. Et c'est l'indicatif. L'indicatif, c'est-à-dire, c'est ce que Dieu a accompli pour nous. Et parce que Dieu l'a accompli, il nous rend capable de faire ce qu'il nous demande. Les protestants, hein, dans la réforme, dit Dieu donne ce qu'il ordonne. Ce que Dieu nous ordonne de faire, il nous donne la capacité de le faire. Donc ça, c'est très important. Regardez par exemple les 10 commandements dans Exode. Vous savez quel est le premier verset de l'Exode, chapitre 20? Je suis le Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Égypte. Autrement dit, ça c'est l'indicatif. Voici ce que j'ai fait pour toi. Et alors, toi, tu feras les commandements que je te donne. Parce que Dieu a libéré le peuple d'Israël, il lui demande de vivre les commandements. Et c'est ce que Paul nous dit dans Galates. Est-ce que vous avez remarqué le verset 18? Si quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît. Merci. Alors, est-ce que ça, c'est l'indicatif ou l'impératif? Alors, si, c'est la même chose que puisque. Puisque vous êtes conduit. Donc, est-ce que c'est un fait ou un ordre à vivre? C'est un fait, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que Paul nous dit? Il nous dit que nous sommes conduits par l'Esprit. C'est un fait. Mais qu'est-ce qu'il nous donne comme ordre? Au verset 16, marcher selon l'Esprit. Donc, oui.
En grec, comme tu le sais, il y a deux si qu'on retrouve dans les fréquentation de Jésus cité les deux, dans Matthieu, oui. Les deux premiers, c'est plus que Dieu. Et puis le troisième, c'est. Et là, c'est plus que.
Oui, c'est ça. Oui. Oui. Non.
Si ça introduit un doute de là, puisque c'est, il n'y a pas de doute, c'est elle, c'est pas et un.
Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est effectivement hein, l'idée que c'est une réalité, c'est pas une condition, c'est une réalité. Et donc, ce que je veux partager avec vous, c'est que Paul ne nous demande pas de faire quelque chose d'impossible. Il nous dit, c'est possible parce que Dieu a déjà fait le nécessaire pour ça. Vous êtes conduits par l'Esprit, alors marchez selon l'Esprit. Les chrétiens se posent souvent la question, mais est-ce que je peux le faire? Ou est-ce que je dois rester passif et Dieu fait tout? Est-ce que je dois faire 50% et Dieu fait 50%? Vous diriez quoi, vous? 50-50, 0-100? Il y en a qui disent, bah, moi je fais 100% et Dieu ne fait rien. Bravo, c'est exactement ça. C'est 100% de la part de chacun. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi, je peux être capable de faire ce que Dieu me demande. Quand je n'étais pas chrétien, je ne pouvais pas. Parce que en moi, le mal était plus fort. Et c'est pour ça que le chrétien n'a pas le droit de dire « c'est plus fort que moi ». Non, le chrétien doit dire « Dieu en moi est plus fort que ce qu'est que ce qui est en moi et donc je peux en triompher. » Et regardez maintenant le verset suivant, le verset 25. Est-ce que quelqu'un veut le relire? Merci. Alors, est-ce que c'est l'indicatif ou l'impératif? Bah, c'est les deux, mon général, comme dirait quelqu'un. Si nous vivons par l'esprit, c'est la réalité de ce que Dieu veut pour nous. Ça ne dépend pas de moi, ça. Hein. C'est ça ce que je veux dire par indicatif. C'est ce que, dans l'œuvre de Dieu, précède mon action. D'accord? Si nous vivons selon l'esprit, donc l'impératif, marchons selon l'esprit. Jean dit, nous aimons parce que, voilà, c'est parce que Dieu m'a aimé que je suis capable d'amour pour les autres. Donc, oui.
Voilà, par exemple, c'est plus fort que moi. Je ne veux pas, mais c'est plus fort que moi. Ça voudrait dire que c'est pas forcément que je ne suis pas mature, je voudrais, mais.
Alors. Bien sûr, mais là je parle de manière rapide, il faudrait prendre le temps par rapport à ça, par exemple. Mais comme tu as dit, c'est très important, c'est ne pas se satisfaire et utiliser ça comme prétexte. Si vraiment Dieu est en moi, il me donnera la force, tôt ou tard, d'être vainqueur. Avec le Christ, nous sommes plus que vainqueurs, parce que c'est ça qui est très important pour nous, c'est de bien comprendre que le Seigneur ne nous a pas libérés seulement de la peine du péché, c'est-à-dire du châtiment, mais il nous a libérés de la puissance du péché. D'accord? Moi, je vous donne trois mots qui commencent par P. Dieu nous a libérés de la peine du péché, de la puissance du péché, en attendant de nous libérer de la présence du péché. Dans le ciel, on sera loin de tout péché. Sur terre, le péché est autour de nous, le péché est en nous, mais le péché n'est plus fort que nous. C'est Dieu qui est en nous qui est plus fort. Alors, il y a des habitudes, parce qu'on parle ici de transformation, de maturité. La maturité chrétienne ne s'acquiert pas du jour au lendemain. On a parlé de chemin, d'accord? On va y revenir. Et ce chemin peut prendre du temps par rapport à certaines mauvaises habitudes dans notre vie, ou même des traits de caractère qui sont là, dont on a besoin de se débarrasser. Le plus important, c'est en m'examinant et en me rendant compte que telle chose ne va pas, ben je vais faire le nécessaire pour que Dieu m'aide vraiment dans cela. Je fais tout sachant que Dieu fait tout pour moi. Je ne peux pas dire je ne fais rien parce que Dieu fait tout. Non, je fais tout parce que Dieu est vivant en moi et il va agir. Même si je... Il faut recommencer jusqu'à avoir la victoire. Le juste tombe 7 fois. Ah, la Bible dit le juste tombe 7 fois, mais Dieu le relève. Quand je tombe, ben c'est vrai que des fois c'est décourageant par rapport à certains péchés, mais le plus important c'est de dire mais je me relèverai et par la grâce de Dieu, je triompherai. Des fois ça nous décourage et on a envie d'abandonner, mais il ne faut pas renoncer. Il faut garder ça à l'esprit. Bon, eh ben, je pense qu'on a passé pas mal de temps. Je vous laisse. Marcher selon l'esprit, comme quelques-uns ont triché tout à l'heure en faisant la liste des 10, ils ont regardé le fruit. Ben, c'est vrai que marcher selon l'esprit, amen. Voilà, et amène toutes les autres dimensions de la vie dans la maturité. Oui. La peine, bah, la puissance et la présence du péché. La peine, c'est-à-dire le châtiment. Parce que le mot peine veut dire châtiment. Hein. On passe au point suivant. C'est parce qu'il faut que je vous mette au travail après. Hein. Bon, le chrétien mature connaît et fait la volonté de Dieu. Là, je suis catégorique. Hein. Le chrétien mature connaît. Parce que les chrétiens qui se posent la question de savoir quelle est la volonté de Dieu pour eux, pendant 20 ans, ça, c'est pas normal. Hein. Moi, j'ai un chrétien, vraiment que je connais, pendant 20 ans, tous les 10 ans, il revenait en me disant « Ah, je sais pas ce que Dieu veut pour moi quant au don du service. » Et je lui dis « Mais mets-toi au service et tu sauras. » « Ah, mais je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi pour le service. » 20 ans et 30 ans, il ne savait toujours pas. Mais ça, c'est pas un trait de maturité. C'est tellement triste. C'est comme le moine, ça c'est une anecdote, hein, c'est celui qui parle tous les 10 ans. Donc c'est un type qui a voulu aller dans un monastère, il n'avait le droit de dire que 2 mots tous les 10 ans. C'était un monastère où on pratiquait le silence. Donc au bout de 10 ans, il va voir l'abbé et lui dit « Nourriture mauvaise bon. ». Troisième, enfin, 20 ans après, il va voir l'abbé et lui dit « Lit dur ». Bon, d'accord. 30 ans, moi, partir. Et l'abbé lui dit « Ça tombe bien, depuis que tu es là, tu n'arrêtes pas de râler ». Bon, ça c'était la parenthèse. Hein. Oui.
Est-ce que Dieu, lorsqu'on a du mal à trouver son don, ne nous met pas des fois d'office, quelque part? Bah, parce qu'on a du mal, justement, même si on veut faire bien, mais il nous dit ben, « tu seras là ».
Bien sûr, oui, oui. Mais il y a des chrétiens, malheureusement, qui, pour des tas de raisons, ne veulent se mettre nulle part, ou se bloquent, parce que, soi-disant, ils ne connaissent pas le don de Dieu pour eux. Mais si on ne met pas la main dans le conduit, comme on dit, ben on ne saura jamais. Et parfois, les chrétiens savent pour nous ce que nous sommes capables de faire, mais on ne veut pas écouter. Bon, ça, c'est une autre question. Hein. C'est comment trouver son don devant Dieu. Ça mérite vraiment réflexion. Mais bien sûr, il faut prier le Seigneur pour ça. Mais c'est au bout de 30 ans, je ne sais pas quel est mon don, bah là, c'est un problème. Hein. Franchement, c'est un énorme problème. En tout cas, pardon.
Est-ce que c'est vraiment nécessaire de savoir quel est notre don? L'important, c'est d'être au service pour Dieu.
Ah, oui, je suis d'accord avec toi.
Si c'est pas forcément un don que de faire le ménage à l'église, c'est juste un service.
Oui, oui, je suis d'accord.
Dieu nous demande d'être au service. Et est-ce que on doit se questionner de quel est notre don? Est-ce que ça, personnellement, je ne pense pas avoir de don, mais je veux être au service.
Ma remarque n'était pas par rapport au don, mais par rapport au fait de dire je ne connais pas la volonté de Dieu pour moi, qui est bloquant. Parce que la personne, à la rigueur, elle aurait pu servir sans problème. Mais en fait, elle ne faisait rien sous prétexte qu'elle ne connaissait pas le don de Dieu pour elle.
Un don dans la pensée. Alors peut-être que c'est pas la pensée de Dieu. Hein, je pense qu'elle a, je ne sais pas, un don, ça veut dire qu'on a une capacité un peu plus forte,
oui,
pour une chose. Donc on a une.
La musique.
Ouais, on a une capacité plus importante. Si on n'a pas de capacité plus importante que les autres, ça ne nous empêche pas d'être au service.
Mais absolument, mais bien sûr.
Ça freine de dire qu'il faut attendre de savoir qu'on a un don.
La personne qui dit « je ne connais pas la volonté de Dieu pour moi » se freine elle-même, absolument. Oui.
Et si on n'a pas de don, c'est pas grave. On a toujours un service.
Alors, il y a le service et les dons qui sont un peu différents. Tout le monde est appelé à être au service de Dieu. Mais le service de Dieu peut être mené avec une capacité différente par rapport à d'autres. On ne peut pas dire « je ne peux pas être au service de Dieu parce que je ne connais pas mon don ». Ça, c'est du n'importe quoi. Donc, ce sur quoi je veux insister, c'est vraiment cet aspect que le chrétien connaît la volonté de Dieu. Ce qui m'étonne, moi, dans la Bible, c'est que vous ne trouverez jamais dans la Bible « chercher quelle est la volonté de Dieu ». Mais c'est quoi la volonté de Dieu? Vous savez ce que la Bible dit? Elle nous dit « faites la volonté de Dieu ». En supposant que la volonté de Dieu est connue. Et vous savez que nous disons que nous voulons être comme le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit le plus souvent? « Je suis venu pour faire ta volonté hein? ». Dans le livre ou dans le rouleau de vie, il est écrit de moi, « Voici, je suis venu pour faire ta volonté ». Ben, le chrétien mature, c'est celui qui dit ça, « Je suis là pour accomplir ta volonté ». Mark Twain, je ne sais pas si vous le connaissez, a dit une phrase qui est magnifique, il dit, « Ce qui me pose problème dans la Bible, ce n'est pas ce que je ne comprends pas, c'est ce que je comprends. Hein. » Et en fait, beaucoup de chrétiens connaissent la volonté de Dieu. C'est quoi le problème en fait? Mais on ne veut pas la faire. C'est ça le problème. Et donc, sous prétexte, voilà, on fait semblant de ne pas la comprendre, de ne pas la connaître pour ne pas la faire. Mais elle est claire. Pourquoi? On ne veut pas la faire parce que la volonté de Dieu est exigeante. Il y a un prix à payer pour faire la volonté de Dieu. Et ce prix se voit nettement dans la vie de Jésus. C'est ce qu'il a dit dans le jardin de Gethsémané, n'est-ce pas? Non pas ma volonté, mais la tienne. Mais en disant cette phrase, Jésus était prêt à payer le prix fort. Et le chrétien, parfois, pense que la volonté de Dieu, ça va être la vie facile. Non, la volonté de Dieu peut être exigeante à notre égard. Et Dieu peut nous demander de prendre un chemin de souffrance, de difficulté, d'engagement. Et donc, il y a un prix à payer. Et donc, moi, je connais la volonté de Dieu et je veux la pratiquer. Quand je dis moi, je parle de chacun de nous en tant que chrétien. Nous connaissons la volonté de Dieu, elle est révélée à 99%. Allez, je laisse 1% pour ceux qui se posent la question, ce qu'ils vont manger à midi. Est-ce que c'est la volonté de Dieu de manger des pâtes ou des nouilles? Vous vous êtes déjà posé la question pour ça? Non. Si vous mangez des pâtes, c'est bon. Si vous mangez des nouilles, ben voilà. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles on ne se pose pas de questions. Il y a bien sûr la volonté morale de Dieu que nous voulons mettre en œuvre et pratiquer. Et ça, c'est le plus important pour nous. Absolument. Voilà. La volonté de Dieu est fondamentale et Paul prie tout le temps pour les chrétiens pour qu'ils fassent la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu permet de ne pas vivre dans la confusion. Dieu nous a révélé sa volonté. Oui.
Mais, par exemple, même Paul dit, si Dieu le veut, c'est ça, on fait par le sacré, mais c'est un être qui ne connaît pas la volonté de Dieu à cet instant, mais que,
exactement. C'est-à-dire que Paul s'engage, comme Jacques le dit d'ailleurs, hein, il dit, quand vous entreprenez des choses, entreprenez-les, il ne dit pas ne le faites pas. Mais en dernier lieu, laissez Dieu souverain. Et Dieu peut juger, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez voulu construire ici, on ne va pas se poser les questions pendant 10 ans, est-ce que Dieu veut ou non. On entreprend et Dieu soit permet, soit ne permet pas. Et c'est ce que nous faisons souvent dans notre vie personnelle. Et c'est exactement, si Dieu le veut, c'est-à-dire, je m'inscris dans le cadre de vie que Dieu a dessiné pour moi. Et à ce moment-là, je laisse Dieu soit ouvrir les portes, soit les fermer. La volonté de Dieu, elle est très souvent claire et nette. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 4, par exemple. Est-ce que quelqu'un veut lire, s'il vous plaît, à partir du verset 1?
Enfin, frères et sœurs, vous avez appris que nous, comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus, faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints.
Voilà, merci. On peut s'arrêter juste là. Qu'est-ce que Paul dit? Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez saints ou que vous deveniez plus saints, ou c'est votre sanctification. Si moi, en tant que chrétien, je sais, mais Dieu veut ma sanctification, c'est énorme pour moi pour savoir le chemin dans lequel je marche. Dieu veut ma pureté. Dieu veut ma sanctification. Il veut mon progrès. Et alors, ça marche pour moi, quoi. Dieu nous a révélé beaucoup de choses dans sa parole. La maturité chrétienne se mesure à la disponibilité de mettre en pratique cette volonté de Dieu à mon égard. Et connaître la volonté de Dieu mène à une vie qui plaît à Dieu. Vous avez remarqué ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens au début? Vous avez appris de nous comment vous conduire et plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est mettre en œuvre sa volonté et l'exercer. Oui.
Est-ce qu'il y a une différence entre le chrétien qui dit si Dieu veut et ce que l'on pourrait comprendre ou traduire en arabe quand on dit plaide à Dieu avec une
pareille? Alors, en arabe, c'est pas bismillah, ça c'est au nom de Dieu, c'est inshallah peut-être. Tu penses inshallah, oui. Alors, les.
Plaide à Dieu.
En français ou en arabe? Parce que en arabe, c'est Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut.
Il n'y a pas une traduction, il n'y a pas quelque chose qui se traduit par plaisir à Dieu. Il me semblait que ça existait et je voulais savoir s'il y avait une différence entre se plaisir à Dieu, s'il plaît à Dieu, et si Dieu. Est-ce qu'il y a une différence?
Alors, moi, personnellement, je connais pas une autre expression en arabe. Tout ce que je connais, c'est Inch'Allah. Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut. Mais dans le monde musulman, c'est presque du fatalisme. Mais la Bible n'est pas du tout dans l'idée de fatalisme. C'est plus l'idée de s'en remettre à Dieu pour qu'il accomplisse son dessein pour nous. Parce qu'il y a la volonté morale de Dieu que nous connaissons, qui est révélée dans la parole. C'est la sanctification. Et il y a la volonté souveraine de Dieu à laquelle nous ne sommes pas, que nous ne connaissons pas, en tout cas dans sa totalité. Je sais par exemple que Dieu m'a sauvé, je sais que Dieu me prépare pour la fin, que je serai dans son royaume, qu'il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre, mais je ne sais pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ce qui va se passer dans cette nouvelle terre. Et nouveaux cieux, comment nous allons vivre? On n'a pas beaucoup de révélations. C'est Dieu qui garde ça pour lui. Donc, lorsqu'on parle de volonté, il y a la volonté souveraine de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit, si Dieu le veut. Et il y a la volonté morale, c'est-à-dire ce que Dieu nous a prescrit, ses commandements. Et là, nous les connaissons, nous sommes appelés à les vivre. Et quand on s'inscrit dans cet axe-là, on plaît vraiment à Dieu. Et Paul parle souvent, par exemple, dans Colossiens chapitre 1, vous pouvez lire ça après, il dit, voilà, ce qu'on veut, c'est que vous plaisiez à Dieu. Et pour plaire à Dieu, il faut connaître sa volonté. Et pour connaître sa volonté, voilà comment vous allez vivre, et ainsi de suite. Donc, la volonté de Dieu est déjà révélée dans l'Écriture. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons remplis de l'Esprit. Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Bien sûr, c'est un commandement. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions dans la sainteté. Et la volonté de Dieu, c'est que nous acceptions la souffrance quand Dieu la permet. Ces vérités sont les repères qui orientent vraiment toutes nos décisions. Pourquoi je parle de la souffrance? Parce que nous cherchons par tous les moyens à éviter la souffrance. Et quand nous le faisons, parfois nous nous égarons loin de la volonté de Dieu. Donc, là aussi, hein, c'est des mots qui commencent par S. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Hein. Je vais vous donner les mots qui commencent par S. Donc, sauver. Alors, pour remplir de l'esprit, j'ai pas trouvé. Hein. Donc, j'ai mis saturer de l'esprit. Bon, c'est pour que ça commence par un S. Hein. Bon, sauver, saturer de l'esprit, saint, soumis et par rapport à la souffrance, donc acceptant la souffrance quand Dieu la permet. Donc sauvé, saturé de l'esprit, saint, soumis aux autorités et accueillant la souffrance. Selon la volonté. Oui, on va ajouter ça. Selon la volonté de Dieu. Bon, puisqu'on parle de la souffrance, ben ça c'est le point numéro 8. Le chrétien n'accepte pas seulement la souffrance, il grandit par la souffrance. C'est des choses difficiles pour nous, n'est-ce pas? Et c'est là où on a le plus besoin de maturité. Je pense que c'est là où Dieu travaille le plus pour nous. Donc, je vous lis rapidement, voilà ce qui est à l'écran. La souffrance fait partie de la volonté de Dieu pour ses enfants. Est-ce que c'est vrai ou non? Elle fait partie de la volonté de Dieu. Jésus a souffert par la volonté du Père. C'est pas un accident, hein. C'est pas, oh, Dieu s'est trompé. Non. Dieu envoie les épreuves et la souffrance parce que par là même, il nous éduque, il nous fortifie et il nous rend plus matures. Les épreuves révèlent et façonnent la maturité. C'est une autre manière de répondre aux épreuves. Le chrétien mature voit la souffrance comme un moyen de croissance. Le chrétien mature comprend que la souffrance fait entrer le croyant dans la volonté du Christ. Parce que le Christ aussi a souffert pour nous. Paul, pas Paul, mais Pierre, dit des paroles très fortes. Il dit, comme Christ a souffert, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Armez-vous. Ouais, c'est, prenez cette idée que le Christ a souffert comme le moyen par lequel vous allez lutter dans la vie pour être vainqueur. Bien sûr, la souffrance purifie notre cœur et renforce notre sainteté, et les épreuves élargissent la vision du chrétien. Les épreuves nous permettent de voir le monde différemment. Pour ça, on en fait l'expérience, qu'on soit chrétien ou non. Mais quand on est chrétien, notre vision du monde se précise par la grâce de Dieu et nous avons une vision du royaume de Dieu plus claire. Bon, là, il faudrait vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour développer tout ça, mais je passe rapidement. Numéro 9, le chrétien est reconnaissant. Si vous lisez Colossiens, vous allez voir que Paul dit « Soyez reconnaissants » à tous les chapitres. Soyez reconnaissants au chapitre 1, au chapitre 2, au chapitre 3, au chapitre 4. La reconnaissance, c'est l'encouragement le plus important que la parole de Dieu nous donne. En fait, la Bible nous dit, Dieu a tellement fait pour toi pour te sauver, et maintenant que tu y es sauvé, tu vas passer ta vie à dire merci à Dieu. C'est vraiment ça, hein, pour schématiser. Dieu s'est décarcassé pour nous sauver, décarcassons-nous pour lui rendre notre reconnaissance. Vous savez que le mot reconnaissant, dans toutes les situations de vie, voilà. On ne remercie pas Dieu pour la souffrance elle-même, mais pour les fruits qu'elle peut générer dans notre vie. Le mot reconnaissance, ça veut dire tout simplement connaître la source du bienfait Et quand je reçois quelque chose, je ne m'attribue pas le bénéfice, mais je reconnais que c'est Dieu qui est derrière ce que j'ai. Aujourd'hui, on va au travail, on a l'impression qu'on gagne tout par nous-mêmes, n'est-ce pas? Et en réalité, le chrétien doit toujours voir que derrière tout ce qu'il est, tout ce qu'il possède, il y a le Seigneur qui donne, qui reprend, qui gratifie. Et notre reconnaissance, elle est bien sûr pour ce que Dieu a accompli dans notre vie. Si vous voulez avoir des sujets de reconnaissance, lisez Éphésiens chapitre 1. Là, vous avez une liste pour laquelle Paul loue le Seigneur et c'est vraiment magnifique. Voilà, on peut remercier le Seigneur pour le pardon total de nos péchés, pour la libération de l'esclavage du péché, pour la vie nouvelle, pour la sainteté, pour l'espérance glorieuse, pour l'adoption, pour la communion avec le Père, pour l'héritage éternel et ainsi de suite. Donc, ayant reçu tant de grâces, le chrétien mature passe sa vie à bénir Dieu et à exprimer sa gratitude. Là, je passe rapidement, hein. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la joie dans la souffrance. La joie chrétienne nourrit la reconnaissance même dans l'épreuve. Vous vous rappelez, Habacuc, le prophète, se termine par « il n'y a plus de figuier, il n'y a plus de bétail ». Autrement dit, c'est la misère, c'est la détresse. Néanmoins, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Dieu est bon. La reconnaissance naît de ce que Christ est plus précieux que tout pour moi. Plus j'apprécie Christ, plus je serai reconnaissant à l'égard de Dieu. Et un des éléments pour lequel on a vraiment besoin le plus d'être reconnaissant, c'est notre espérance éternelle. Nous avons besoin tout le temps de nous projeter dans le temps pour nous voir dans la présence éternelle de notre Seigneur. Et la joie ineffable qui nous sera accordée est la grâce de notre Dieu. Bon, je passe à la suite. Le chrétien mature partage sa foi. C'est le témoignage. Mais si j'ai toutes les qualités dont je viens de parler, vous savez que le témoignage devient une réalité naturelle. C'est-à-dire que je vais parler de Dieu naturellement. Si Dieu est le bien le plus précieux pour moi, ben je vais parler de lui de manière spontanée et simple. Donc, le chrétien entre dans la mission de Dieu, parce que la mission de Dieu, c'est de sauver le monde. Et le chrétien devient l'instrument pour être au service de cette mission de notre Seigneur. Et notre motif de témoignage, ce n'est pas la culpabilité, ce n'est pas parce que les autres le font, mais c'est l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que Dieu a pour nous. On ne doit pas être des témoins parce que nous nous sentons coupables, mais c'est parce que nous aimons les autres et que nous voulons vraiment qu'elles reçoivent ce que nous vivons, que cela nous pousse à être des témoins à leur égard. Donc voilà les 10 caractéristiques. Si je prends maintenant les 2 plus importantes, ben c'est aimer Dieu et aimer les autres. Et comme dit le Seigneur Jésus, en faisant cela, nous accomplissons toute la loi et les prophètes. Bon, maintenant, j'aurais voulu qu'on prenne le temps de remplir le tableau. Je vous ai mis un tableau, mais on va pas faire ça. Vous allez faire ça chez vous. Donc, ce tableau, il est vide. Vous voyez, comme je suis très gentil, je vous ai mis un exemple, hein. Donc, la relation à Dieu, donc les domaines, relation à Dieu, par exemple, indice fiable. Je vais voir si ça s'affiche. Voilà. Les indices fiables de la maturité, ben, l'humilité, par exemple, vis-à-vis du Seigneur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. D'accord? Et les indices trompeurs par rapport à la relation à Dieu, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme indice trompeur? D'accord? La fausse humilité, l'orgueil qui peut être là et d'autres choses, oui. Donc, ben, je vous laisse vraiment faire ce tableau peut-être à tête reposée chez vous. J'aurais voulu aussi qu'on parle de 1 Jean qui nous donne les étapes de la maturité chrétienne. Là, on a beaucoup parlé de la maturité, mais il y a un chemin vers la maturité. On va juste lire 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 14, Mais je vais pas plus loin parce que je voudrais qu'on fasse un travail final ensemble. Donc, 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Si quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît.
Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le père. Je vous ai écrit, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin.
Voilà, super. Merci beaucoup. Donc, vous avez vu que Jean écrit aux enfants, aux jeunes gens et aux pères. Alors, moi, je comprends ça comme non pas des références à la réalité physique, mais à la réalité spirituelle. Les enfants, c'est ceux qui commencent la vie chrétienne. Les jeunes gens, c'est ceux qui sont en chemin vers la maturité. Et les pères, ce sont les adultes, nécessairement. Donc, les hommes matures, les femmes matures. Et vous pouvez vous arrêter sur ce que Jean dit de chaque catégorie pour déterminer à quoi correspond chaque étape. Par exemple, les enfants, il dit, vos péchés vous sont pardonnés. Mais ça, c'est vraiment la base de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Le pardon des péchés. Et il dit, vos péchés vous sont pardonnés au nom de Jésus. Oui, nous avons invoqué le Seigneur Jésus et son nom, par son nom, nous avons été sauvés. Et Dieu devient notre Père. Donc, je m'arrête là, je vous laisse découvrir. Et il y a une partie dans le livre, si cela vous intéresse. Donc, pour le travail, je vous demande de réfléchir à ces situations. On va en prendre juste deux, là je vous en ai marqué plusieurs. Quelle est la réponse mature dans cette situation que vous avez? Un chrétien te critique durement, publiquement. Comment réagir en chrétien mature? Deux claques. Pour réagir avec amour. D'accord. Pauvre petit bonhomme immature, va. Bah, c'est des situations que nous pouvons vivre dans l'Église, n'est-ce pas? Voilà. Bon, on va passer rapidement. Je vous laisse réfléchir à ça. Vous, en tant que chrétien mature, quelle devrait être votre réaction? C'est pas forcément ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on devrait faire, oui?
Est-ce que faut dire toujours amen en disant, parce qu'à un moment donné, bon, voilà, est-ce qu'il n'y a pas la vérité qui doit être. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pour réagir en tant que chrétien mature, donc on dit, ben voilà, du coup, on passe un peu l'éponge, et je me dis, est-ce que c'est toujours sage ou sain de passer l'éponge à un moment donné?
Non, mais bien sûr, mais Paul, Jésus ont réagi dans des situations différentes en défendant leurs droits. Paul a fait appel au tribunal de César. Donc il y a des. Mais c'est une chose de dire je réclame le tribunal de César et une autre de dire chrétien a prié pour que Dieu le détruise. Non, par exemple, j'exagère là. Oui.
Oui. Elle m'a dit oh, mais moi ça fait rien parce que je prie. Pour que le Dieu amasse des charbons ardents au dessus de sa tête. Moi, je ne sais jamais dit ça.
C'est grave.
Je n'ai jamais dit ça.
Oui.
Mais comment est-ce qu'on en arrive là?
Bah, c'est peut-être un trait d'immaturité, oui. Oui. Oui, mais c'est publiquement, là. Ah, parce que ça arrive, hein. Ça arrive que des chrétiens disent des choses vraiment méchantes, violentes à quelqu'un d'autre dans la communauté. Bon. Oui.
Si c'est fait publiquement, si c'est faux, étant donné que c'est public, les autres personnes vont réagir à ta place. Si je te critique, si je dis n'importe quoi sur toi, ben, ils vont réagir et ils vont me dire non, attends,
c'est vrai ce que tu dis, mais ça c'est l'idéal. Mais des fois c'est pas la réalité. Moi j'ai déjà vu une fois un problème comme ça, tous les chrétiens ont défilé, ils ont laissé les deux personnes toutes seules, quoi. Débrouillez-vous. Oui.
Il y a une différence entre critiquer publiquement devant un public chrétien ou un public non chrétien.
J'ai juste une question. Est-ce que vous autorisez de déborder un petit peu le temps ou non?
Oui, oui, oui.
D'accord, donc jusqu'à 15 heures, c'est super, merci. Non, juste peut-être un quart d'heure parce que j'ai un autre travail que je voudrais vraiment que vous fassiez. Mais là, on passerait beaucoup de temps. Oui? Dur. Non, ça ne m'est pas arrivé. Il y a eu des fois où, bien sûr, j'ai repris des élèves sérieusement. Mais après, moi, j'avais toujours la démarche de voir l'élève, de discuter avec lui après. Mais des injustices, oui, bien sûr, on en connaît, hein. Des fois, j'ai repris un élève, c'était pas lui, c'était le voisin. Ou je... ils sont malins des fois. Hein. Deuxième situation. Hein. Là, je vous laisse avec la première. Hein. Donc, vous réglez ça. Sinon, vous demandez à Joanna. Elle. On te demande un service que tu n'as pas envie d'accomplir. Quelle est ta réponse? Ou la réponse mûre. Oui.
Demander à Dieu s'il est fait bon. Demander à Dieu en fait si tu dois le faire ou pas.
D'accord. Oui.
Ça fait penser au texte biblique. Il va dans les champs, l'autre dit non. Et l'autre dit oui, mais il ne va pas. Et l'autre dit non, il ne va pas.
D'accord.
Ou alors on se force un peu, puis on ne peut pas envie.
Alors, des fois, il faut le faire, parce que c'est vrai, on n'a pas toujours envie de faire des choses qu'on doit faire. Je ne sais pas, mais certains qui travaillent encore n'ont pas envie d'aller au travail le matin, hein, mais ils y vont quand même, hein. Oui, oui, mais des fois, on peut dire non. C'est là où il y a la réponse mature. Est-ce qu'il y a des moments où je peux dire non à quelqu'un?
Si on te demande si c'est moi qui dois le faire et que je m'en défausse, c'est lâchement que je m'en attends.
Par exemple, oui. Oui, par exemple. Il y a des situations où on doit dire non. Mais comment le dire? C'est ça le plus important. C'est expliquer, donner la raison de mon refus, etc. Allez, c'est vraiment... Ça demanderait beaucoup d'échanges, mais on passe... Un jeune converti est à vous une tentation forte. Quelle réaction reflète la murmure? Mais t'es vraiment incroyable. Comment tu oses faire ça? Ça n'existe pas, les tentations. Plus fort, Yves, s'il te plaît.
Vivre avec lui, la parole, on va chanter avec lui.
Joanna?
Oui. Déjà, c'est reformuler et dire que ça nous arrive aussi à nous d'être tentés.
Oui, s'identifier avec la personne. Là, il faut vraiment faire une démarche de compréhension, de dire à la personne, les tentations peuvent exister. Et être tenté, c'est pas la même chose que de succomber à la tentation. Il faut bien comprendre le processus de la tentation.
Et reconnaître que c'est déjà un grand pas venir et d'avouer.
Par exemple, voilà, de dire, c'est effectivement, c'est une démarche énorme. Oui. Bon, là, c'est des situations de vie que nous pouvons vivre. Pourquoi je vous pose ces questions? C'est aussi pour que vous voyez comment réagir de manière mature et aussi pour aider les autres à devenir matures. Parce que si vous êtes là, c'est comme je l'ai dit au début, c'est aussi pour devenir soi-même capable d'aider les autres. Encore une situation. Une sœur vit un drame. Quelle attitude d'un chrétien mature auprès d'elle?
Le contraire aussi, si c'est un homme. Hein. Les femmes aussi. Là.
Oui, mais c'est parce que j'ai parlé des hommes avant. Il faut que j'en donne quand même aux femmes. Hein. Oui. Voilà, disponible pour aider. La compassion. Pleurer avec. Pas trop parler, oui. Alors, ça c'est vraiment fondamental. Vous savez que nous, souvent, nous chrétiens, moi en tout cas, j'ai appris à ne pas être un théologien, mais une personne emplie de compassion, parce qu'on a toujours des solutions pour les autres. Hein. Quand on passe pas par le problème, on sait ce qu'il faut faire. Mais la personne, souvent dans une situation dure, n'a pas besoin d'un cours de théologie. Hein. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise « Ah, mais c'est ça et c'est ça ». D'ailleurs, elle sait. Ce qui manque, c'est la force. C'est la grâce de Dieu qui agit, etc. Mais vous voyez que la maturité, est indispensable dans toutes nos relations avec les autres.
Si on parlait à quelqu'un qui est passé par le même genre d'épreuve, peut dire, tiens, il y a telle sœur, telle frère.
Absolument, mettre en contact les personnes pour qu'elles soient bien accompagnées. Ça, c'est vraiment une bonne démarche parce que souvent, on n'est pas capable de répondre aux besoins d'une personne, mais on sait que quelqu'un a vécu la même situation et cette personne peut aider.
Tu as besoin de ne plus être seul aussi. Un soutien.
Plus fort, s'il te plaît, et pour que les autres entendent.
Un soutien, de ne plus être seul.
Voilà, oui. Que la personne ne reste pas seule. Voilà, une dernière situation. Tu dois prendre une décision importante. Comment un chrétien mature discerne-t-il la volonté de Dieu? Je lis ça et on arrête, hein, parce que là, il y en a pour 3 heures. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est pour le temps qui nous reste. Alors, vous avez vu, à la fin, j'ai pris le temps de faire une liste de 48 étapes de la vie chrétienne. Ah, vous trouverez pas ça dans le livre. Hein. Donc, ce que je vous demande, c'est de prendre ces éléments et de les classer en 4 parties. Bon, je passe hein, sur s'examiner soi-même. Voilà, je passe tout ça. Voilà. Classer chaque affirmation dans l'une des 4 étapes de croissance. Est-ce qu'on est au début de la vie chrétienne? Est-ce qu'on est sur une croissance active? Est-ce qu'on a atteint la maturité stable? J'aurais pu rester là, mais j'ai ajouté une 4e en disant « Je deviens moi-même capable de transmettre et de former d'autres croyants. » Par exemple, « Je fréquente le culte régulièrement. » Vous allez mettre ça dans quelle partie? Ah ben, c'est à vous de voir. Donc, vous prenez une feuille, vous mettez 4 colonnes et en fait, Johanna a bien voulu faire la photocopie des critères là. Ce que je vous demande, pour ne pas perdre du temps, vous allez d'abord par groupe prendre ça et vous coupez en petits chaque élément. Là, Johanna a prévu les ciseaux aussi. D'accord? Donc vous les coupez comme ça. Non mais comme ça, vous avez vos 4 colonnes, vous lisez ensemble. Je suis chrétien, je crois que Jésus est le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour le pardon de mes péchés. Je mets ça dans quelle colonne? Eh bien, vous la posez comme ça. Et donc, dans chaque colonne, vous mettez les éléments que vous prenez.
C'est pas moi qui
vous dis. Ça vous va comme ça? Bon. Et alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que ça peut vous aider vous-même pour conseiller d'autres chrétiens en disant, mais voilà ce que tu pourrais faire pour l'étape suivante. Tu en es là, voilà ce que tu peux faire pour avancer. Juste pour donc faire le point avant de conclure, la liste, vous l'avez dans votre carnet, et vous pouvez la reprendre à tête reposée. C'était quoi le but de ce travail? C'est pour que vous réfléchissiez sur des critères qui permettent de dire bah, où je me situe. C'est pas facile tout le temps de placer dans une colonne ou dans une autre certaines dimensions. Mais ce qui est vraiment important, c'est pour moi-même, d'abord, je peux me situer en fonction de la colonne qui correspond le mieux à mon cheminement spirituel. Et ce qui est important, c'est de voir que je peux passer d'une colonne à l'autre. C'est en m'examinant, je me dis, eh ben moi, c'est plutôt la colonne 2. Ben, ma démarche, c'est d'aller vers la colonne 3, mais avec des choses concrètes. C'est pour ça que j'ai pris des choses un peu concrètes. C'est de dire, ben, ça, c'est concret. Par exemple, il y a un élément, je suis baptisé. Vous mettez ça où? Ben, ça, c'est vraiment au début, hein. Parce qu'il y a des chrétiens, ils mettent ça à la fin. Parce que le baptême, c'est la base de la vie chrétienne. Et mais aussi, si vous parlez avec un chrétien, ça peut être utile de dire, bah, écoute, regardons ensemble, est-ce que tu en es là? Combien de fois tu lis la Bible? Une fois par semaine? 2 fois? Tous les jours? Et puis d'autres critères, eh ben voilà, tu te situes là, et maintenant, si vous accompagnez quelqu'un, ben écoute, maintenant, il va falloir avancer, passer sur la deuxième ou la troisième ou la quatrième colonne, et voilà ce que tu pourrais faire de manière concrète. Et comme ça, on peut aller de progrès en progrès. En tout cas, j'espère que ça vous aidera personnellement et que ça vous aidera aussi comme instrument pour accompagner les autres quand ils se posent la question sur la maturité, où ils en sont, en leur disant, voilà, tu as des critères concrets qui te permettent de te dire où tu en es, mais la maturité, c'est un mouvement, c'est une dynamique. D'accord? C'est ça qui est très important. Je voudrais finir par lire un passage dans la Bible et prier. Peut-être que vous pouvez prendre en photo ce que vous avez déjà fait. Sinon, refaites ça chez vous, à tête reposée, en faisant votre tableau tout seul. Donc, je lis avec vous Philippiens, chapitre 3. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je fais une chose, je cours vers le but, ou pour le dire autrement, je passe de colonne en colonne. Alors que le Seigneur aide chacun de nous et nous donne vraiment la joie de vivre dans la maturité chrétienne. Je prie avec vous. Seigneur notre Père, tu es vraiment merveilleux, tu es un Dieu de grâce et d'amour. Tu nous as comblés de tes biens, tu nous as sauvés, tu nous as introduits dans ton royaume et tu veux que nous soyons des explorateurs de ce royaume pour te connaître dans ton cœur de Père et de Dieu de grâce et de miséricorde. Conduis chacun de nous présents ce matin dans cette connaissance merveilleuse afin que par cette connaissance que nous avons de toi, nous t'aimions davantage et que nous soyons à ton service. Bénis chacun de nous et fortifie notre vie à la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci d'avoir été avec nous ce matin et de prendre soin de chacun. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.